On va prier. Notre Père, nous te bénissons pour cet après-midi que tu nous accordes la grâce de me retrouver. Merci Père pour cette bénédiction encore une fois de pouvoir nous retrouver autour de ta parole. Gloire à toi qui nous donne la force nécessaire, la disponibilité pour vivre ce moment ensemble. Père, nous nous remettons à toi et à ta grâce, à ta miséricorde, Seigneur. Que ce soit un moment d'échange fraternel, constructif, Seigneur. Ça va nous aider à progresser dans la relation avec toi. Merci pour ton esprit qui est capable de nous guider, de nous orienter, d'apaiser nos cœurs, de nous parler. Seigneur, nous nous remettons à toi, remplis-nous de ta présence, parce que tu es le berger de toute notre vie. Merci pour ce moment. Glorifie ton nom, Père. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, merci, chers amis, d'être là. Cet après-midi, c'est le dernier groupe de l'année. Le mois prochain, on n'aura pas connexion. Et nous aurons de nouvelles séries qu'on va avoir pour les autres mois, septembre jusqu'en décembre.
C'est le dernier groupe de l'année.
Des
vacances.
Des vacances ici. Des vacances, oui. Donc c'est les vacances. Au mois d'août, on n'aura pas le groupe au mois d'août. On reprend en septembre. Alors merci pour votre disponibilité, votre présence pendant que nous réunissons. Alors la discipline, c'est quelque chose qui ne plaît pas beaucoup. En tout cas, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop, surtout quand on est enfant, il y a des parents, et puis quand on est au travail, il y a des sanctions qui arrivent. Dans beaucoup d'endroits, la discipline, quelque chose qui a toujours un regard un peu négatif. Mais c'est aussi un regard aussi positif, surtout dans la foi. Ça construit, ça nous aide à progresser avec le Seigneur. Et Dieu utilise ça dans sa relation avec les humains. Parce qu'il sait que c'est pour notre bien. Alors, on va lire ensemble un texte dans Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, verset 3 jusqu'au verset 11. Hébreux 12, 3, 11. Hébreux 12, 3, 11. La lecture, Hébreux chapitre 12, verset 3 jusqu'au verset 11. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa propre, sa personne, afin que vous ne vous fatiguez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe les verges tout fils qu'il agrée. Si vous portez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempte de la correction à laquelle tous on part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés. Ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour paix de temps, comme il est jugé bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qui la formaient. Voilà quelques versets par rapport à ce sujet. C'est l'apôtre qui écrit ce texte à des Juifs. Ce sont des Juifs, tous les Hébreux, il écrit cette lettre. Les lettres des Nouveaux Testaments que Paul a écrit, Pierre a écrit, Jacques a écrit, ont des destinataires parfois spécifiques. Et Paul écrit aux églises, il a ses églises, c'est Rome, Corinthe, Galatie, Éphèse, Thessalonique, et d'autres aussi. Il écrit aussi à Timothée, à Tite, c'est les enfants dans la foi, les lettres qui étaient destinées. Pierre écrit ces deux lettres à beaucoup d'églises qui sont vers la partie de, au nord-ouest de la Palestine. Et puis lui, il a écrit cette lettre-là, qui a sillonné dans beaucoup d'endroits où on a lu cette lettre. Pendant que cette épître aux Hébreux, on ne sait pas qui l'a écrit. Souvent on dit, mais est-ce que c'est Paul, est-ce que c'est Pierre? Mais c'est adressé aux Juifs. C'est pour ça que Paul parle, l'apôtre parle beaucoup de comparaisons entre le Seigneur, l'Ancien et le Nouveau Testament, Jésus et les sacrificateurs, Jésus et les anges. Il parle beaucoup de comparaisons, Ancien et Nouveau Testament. Ici, il aborde aussi la question de la souffrance, de la discipline, que les Juifs connaissent bien. Il y a un seul peuple dans le monde qui connaît bien la punition, c'est les Juifs. C'est le seul peuple. Nous, on n'a pas connu ça. Ces peuples-là, ils ont quitté Égypte, ils ont pris le désert pour Canaan. Les projets de Dieu n'étaient pas de rester longtemps dans le désert. Ils quittent Canaan, ils quittent l'Égypte, pardon. Ils prennent le trajet, puis ils vont arriver à Canaan, et puis ils entrent dans ce pays promis. Mais leur désobéissance a fait qu'ils vont retourner 40 ans dans le désert. Et dans le désert, c'était la souffrance et la mort. Il leur a promis la mort. Parce que quand il a dit que, comme les parents qui étaient devant ce pays promis, qui n'ont pas voulu entrer, ils s'est posé des questions, ils ont refusé la position de Caleb et Josué, qui ont été partis voir ce territoire. Il dit que c'était très bien, on peut entrer là-bas. Mais il y a des gens qui sont des grandes personnes, que là, il faut quand même qu'on combat pour entrer. Et les anciens d'Israël disent, écoutez, n'allons pas, parce que ces gens vont nous détruire. On ne peut pas aller là-bas, ils ont refusé. Ils ont influencé toute la population, ils ont refusé d'entrer dans ce pays. Alors le Seigneur a dit, comme ils ont fait 40 jours pour tourner dans cette ville-là, dans ce pays, pour vérifier la vie, inspecter la vie, vous ferez aussi 40 ans dans le désert, et vous allez mourir. Il leur a promis la mort, que vous qui êtes là, vous n'entrerez pas dans ce pays. Ce sont vos enfants qui entreront. Donc, ceux qui sont entrés dans le pays d'Égypte, pas de Canaan, ce sont les jeunes qui sont nés dans le désert. C'est un peu quelque chose de dramatique. Ils disent tous, vous n'entrerez pas dans ce pays promis. Que ce soit Moïse, Aaron et toute génération, personne n'a pu entrer dans ce pays. Tous, ils sont restés hors Canaan. À part deux personnes, Josué et Caleb. Et ils ont pu voir, c'est-à-dire, ils étaient plus déjà âgés par rapport à tous ces jeunes qui étaient là. Donc, ça fait plus de 40 ans. Pendant 40 ans, il y a des naissances dans le désert, mais les parents qui vont donner ça à ces enfants-là, eux, ils n'entreront pas dans ce pays promis. Ce sont les enfants qui ont vu ces choses-là, qui ont vu comment les gens mouraient, qui ont vu comment Dieu frappait les gens, qui vont rapporter les nouvelles dans le pays Canaan. Il y aura des prophètes qui vont prophétiser, il y aura des rois qui vont venir, qui vont se rappeler, oui, nos pères ont vu telle chose. Ils ont vu ça, ces enfants-là. Ils rapportent ça dans beaucoup de livres, dans l'Ancien Testament. Et ils savent c'est quoi être puni. Ils savent c'est quoi être frappé par Dieu. Ils savent. Quelqu'un peut être là, debout, pendant qu'il parle, Dieu le tue, je ne sais pas s'il meurt. Ils savent qu'est-ce que le sang qui coule. Et ils savent, les Juifs savent ça très bien. Et comment Dieu nous a frappés plusieurs fois. Et comment aussi, les jours où ils ont péché devant Dieu, vous connaissez l'histoire du serpent de rein, il fallait que Moïse fasse un serpent de rein. Ceux qui regardaient étaient guéris. Et tous ceux qui regardaient pas étaient morts. Et puis il y a plus de 22 000 morts en un seul jour. C'était beaucoup. Parfois 5 000, 10 000 morts, c'était... Souvent, on se dit, comment est-ce qu'on arrive à les enterrer dans ce désert? Parce que beaucoup de morts, parfois, en une journée, c'était la colère de Dieu. Le Dieu que nous prions, il est bon, c'est vrai, Dieu est bon, mais il a une face, il a beaucoup de facettes. Et l'autre facette du Seigneur, c'est sa sainteté. Et l'autre, c'est sa colère. Et sa colère, quand ça descend, sa colère est toujours là, hein. Sa colère, on va voir ça s'est déclenché le jour où il y aura la fin du monde. D'abord, il va ramener son église, ses enfants dans son royaume, et la colère va se déclencher, il va tout détruire. Et ça va s'acharner sur le diable lui-même. Lui, il sera enchaîné pour l'éternité. Il y a même un ange qui est préparé pour lui spécialement. Dans l'Apocalypse, un ange qui est préparé pour l'enchaîner. Cet ange-là est très particulier, que Dieu a préparé pour arrêter l'ennemi, l'enchaîner complètement, il le ramène dans l'abîme. Et cet ange-là, il attend. Ça fait des siècles, il attend. Qui celui qui va arrêter le malin et le mettre là-bas. Du coup, Dieu a une partie, la colère de Dieu. Et ici, dans cette seconde voie, ici, c'est la partie de la colère de Dieu. Il est sa justice. Et là, on ne peut pas changer ça. Un Dieu qui aime, mais qui frappe aussi, qui frappe très fort. Et parfois, ses actions de punition sont parfois étonnantes et puis foudroyantes aussi. Parfois, quelqu'un est puni et puis c'est la mort. D'autres sont punis, sont restaurés. On va expliquer ça. Du coup, les Juifs, c'est le peuple qui a vécu ça. Et malgré ce qu'ils ont vécu, c'est un peuple tellement têtu, tellement incrédule que même jusqu'à aujourd'hui, ils ont vu tellement de choses même. Ils n'arrivent pas à se tourner complètement vers Dieu. Même à l'époque de Paul. C'est qu'on ne comprend jamais ce peuple. Alors, l'apôtre écrit cette partie. Il parle un peu de la persévérance qu'on peut avoir et comment est-ce qu'on peut marcher avec le Seigneur. Et ne pas se décourager parce que Dieu va reprocher comme à des fils. Dieu compare nos parents et lui. Il dit que nos parents, pour peu de temps de vie, ils corrigent tes enfants. Ils nous corrigent. Juste pour la vie terrestre, ils donnent des corrections. Mais Dieu nous corrige pour la vie dans l'éternité. Donc la correction divine a un aspect éternel. La correction de nos parents a un aspect terrestre. C'est pour un temps, pour tout ça, un homme et une femme éduquée qui va avoir de grandes responsabilités, être en paix dans le monde, les parents corrigent. Mais le Seigneur corrige non pas par rapport à cette terre, non. Il corrige par rapport à l'éternité. Mais les croyants qui sur terre peuvent vivre avec une partie terrestre et une partie céleste. Mais il fait ça pour le projet de l'éternité. Voilà un peu l'action de la correction divine. Donc nous n'allons pas nous plaindre quand Dieu frappe, quand Dieu corrige. Mais Israël, quand Dieu le frappait, ce n'était pas pour le royaume des cieux. Pas du tout. C'était pour montrer sa justice, son jugement qui n'interrompt pas dans ce pays. C'est une autre façon de les punir qui est différente d'aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Un seul homme à qui Dieu a puni qui a vécu deux choses, la punition et puis la restauration, c'est David. C'est le seul roi qui a vécu ça. Il a puni Saül, il est mort. Il a puni Élie, le juge, il est mort. Parce qu'Élie avait des enfants, faisait trop de bêtises. Il est le juge. Et Dieu a dit à Élie de reprocher ses enfants. Élie était trop, il était comme un papa poule qui mettait mal ses enfants, il n'allait pas les reprocher. Et Dieu a dit, comme tu n'écoutes pas, les jeunes garçons qui avaient vers adolescents, 17 ans à peu près, 18 ans, c'est les plus jeunes, c'est Samuel. Il aura la révélation, Dieu a dit, dis à Élie, sa maison sera détruite. Et lui, j'ai vu l'écarté de ce travail des juges. Et j'ai détruit ses enfants, toute sa maison sera éliminée. Élie entendait ça, il dit, oui, que Dieu fasse ce qu'il veut. Et c'est terrible. Dieu a frappé. D'abord, Israël a perdu le combat. Ses enfants de Dieu sont morts. Et quand on apporte la nouvelle à Élie que l'arche du Seigneur a été pris, et si en plus aussi, ses enfants sont morts, Élie est mort ce jour-là. Et même sa belle-fille était enceinte, elle a accouché ce jour-là. C'était un jour de tristesse. On dit à sa belle-fille, quel est le nom que veux-tu donner à cet enfant? Elle dit, Ikabod. Le malheur est descendu sur Israël. Et c'était terrible. C'était avant qu'elle meure elle aussi. Elle allait mourir. Elle dit, mais quel nom tu donnes à cet enfant? Il dit, il s'appelle Ikabod. Et c'est un nom de tristesse. Il lui donnait ce nom. Et elle montre comme Rachel, la femme de Jacob. Jacob est morte. Quand Rachel est morte parce que elle était morte le long du chemin pendant qu'ils allaient, ils rentraient vers leur pays. Ils ont quitté la maison de ses parents, là où il était là-bas. Et le long du chemin, elle était enceinte, elle a accouché, elle est morte. Et on lui a dit de donner le nom à son fils. Elle donnait un nom de malheur. Et Jacob a dit, il faut qu'on l'appelle Benjamin. Et pendant qu'elle, pour elle, c'est l'enfant de souffrance et de douleur. Elle avait dit qu'on l'appelle Ben-Oni. Ben-Oni dit, c'est un enfant de malheur, de souffrance. Ça, c'est le nom que Rachel a donné à Benjamin, le dernier fils de Jacob. Voilà, tout ça, c'est les parties où Dieu frappe, où Dieu agit. Bon, le cas de Rachel, c'est différent, ce n'était pas le corps de Dieu, mais c'est un fait qui est arrivé. Jacob aimait beaucoup Rachel. Aimait beaucoup, beaucoup Rachel. C'est elle qui voulait apprendre comme première épouse. Mais son beau-père Laban avait triché. Il lui a donné Léa la première. Mais au-delà de ça, elle n'a eu que deux enfants. Joseph et Benjamin. Mais Dieu avait puni Laban. Parce que si vous savez, c'est le seul texte biblique où on voit le mystère de Dieu qui dépasse la science. Le mystère est ceci, dans le texte qu'on lisait dans le livre de Genèse. Jacob est chez son beau-père, il leur donnait un travail de prendre soin du troupeau. J'ai dit que c'est important d'expliquer ça pour comprendre la suite. Et Jacob, il est là. Et son chef, son beau-père a dit, écoute, je ne te paye pas, je n'ai pas ton salaire de te payer par rapport à ce que tu vas faire, mais on va faire ceci. Si les brebis qui sont là, les moutons, s'ils donnent des petits qui sont des poids tachetés, c'est à toi. Tout le reste, c'est à moi. Et du coup, chaque fois que les enfants naissaient, les bébés naissaient des moutons, des brebis, il y avait tous, la plupart avaient d'autres couleurs qui tachetaient. Très peu avaient des couleurs tachetées. Et Jacob avait perdu. Il travaillait beaucoup, mais il avait très, très, très peu de salaire. Là-bas, il le faisait exprès. Alors, il prie le Seigneur. Dieu lui a dit, Jacob, je te donnerai le troupeau de ton beau-père. Comment Dieu va faire? Et il lui a dit, là où il y a le mangeoire, là où les brebis prennent de l'eau, tu vas mettre le peuplier. Donc, c'est un arbre un peu en Orient. Donc, il y a des branches là, de plusieurs couleurs. Tu coupes les branches, tu le mets en longueur, du coup, tu mets ça dans le mangeoire. Et puis, tu coupes ça en lamelles comme ça, tu mets ça dedans. Quand les brebis qui sont en chalet, qui sont fécondes, ils vont faire des petits, quand ils vont regarder ces rayures-là dans l'eau, ils vont faire des petits avec des rayures. Alors, Jacob dit à Laban, est-ce qu'on peut changer le jeu? Moi, je peux avoir des brebis qui ont des rayures, toi, tu prends les rayures. Ok, il pensait qu'il va gagner. Et puis, ce jour-là, tous les brebis qui naissaient avaient des poils, avaient des rayures, tous. Il a pris les trois quarts de tout ce qui revenait à son beau-père, c'est devenu à lui. Dieu est compliqué, hein? Comment tu peux mettre des petites branches dans l'eau et que la brebis les garde et fait des petits comme ça? Et ça, où j'aime notre Père de formidable. C'est là où je ne doute pas de lui. Ça, où ça m'aide à ne pas craindre quand ça chauffe, qu'il est capricieux des choses. Ma vie, à la fin de ma vie, je dirais que ma vie était bonne, elle était une vie difficile sur terre, je le sais. Mais je sais que le Dieu que j'ai pris, il est extraordinaire. J'ai hâte de le voir. C'est un Dieu tout puissant qui dit des choses parfois qu'on ne comprend pas. Mais il peut le faire. Et c'est Dieu-là, quand je vois, je dis, oh là là, comment tu fais, Seigneur? J'ai passé une semaine horrible, cette semaine ici. C'était horrible. Jour après jour, je ne sais pas comment faire. Mais une chose qui était là, dès toujours, ne t'inquiète pas. Mais les choses ne changent pas. C'était dur. Mais t'inquiète pas, je suis là, t'inquiète pas. Une fois un matin, j'ai prié, il me disait, mais tu penses que je n'ai pas enlevé ce que tu vis. Moi, je suis passé par là. Ce n'était pas une bonne nouvelle, ça. On est là, toujours avancé avec lui. Mais ce Dieu-là, c'est notre Père. Soyons heureux de ce Père-là. Il est formidable, le Seigneur. Il est tout puissant. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du tout. Même que ça chauffe le poil qui commence, mets-toi à genoux, parle. Il t'écoute. Il t'écoute vraiment. Quelqu'un qui m'a haï, qui me hait tellement à un niveau horrible, c'est cette nuit que je l'ai vu en vision. Le Seigneur m'a dit, je plierai ce genou, je l'ai vu. Et j'ai eu pitié de la personne. Tu vois là où elle est. Dieu est formidable. Mais maintenant, j'ai prié pour la personne, j'ai pitié de la personne. Que Dieu nous aide. N'ayez pas peur du tout. Mais on peut être puni par Dieu. Ça, c'est pas la bonne nouvelle, ça. C'est ça, Laurent. Ça peut arriver. Maintenant, on va expliquer la suite. La punition que Dieu y a, il y a deux possibilités. Il y a la partie punitive, où c'est une punition que Dieu inflige à son enfant. Il peut le punir de force d'une autre, mais pas la mort. C'est rare. Et puni ici, terriblement, ça peut être une souffrance, ça peut être des portes fermées, et c'est ce qui se complique, tu vas à gauche, je vois à droite, et tu ne sais pas comment aller, ou ça ne marche pas du tout, c'est compliqué. Deuxième, à la fin, cela va amener la restauration. Mais où est le problème? De savoir, est-ce que ce que je vis, c'est une punition, ou ce n'est pas une punition? Est-ce mon problème? Est-ce la situation ou quoi? C'est là où il y a la question de discernement ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'on demande aux chrétiens attention à notre vie. Si nous marchons vers le Seigneur, je marche un peu bancal à faire des choses compliquées. Parfois, j'ai toléré les péchés dans ma vie. Je sais faire des choses pas bonnes. Attention. Quand les choses vont arriver, tu comprendras que ça, c'est Dieu qui me punit. quand tu n'as rien fait, quand tout est bien, et que tu passes quelque chose de temps compliqué, c'est pas la punition, c'est l'épreuve. C'est différent. On peut pas être puni sans le savoir. Non. Quand on est puni, on le saura. C'est lié à notre faiblesse que je vais expliquer là-bas. Là-bas au fond. Donc parce que Dieu est saint, alors là-bas, parce que Dieu est saint, et nous sommes des pécheurs, Dieu est là, il est saint, mais il a des fils compliqués qui sont là, des humains, ils sont un peu compliqués, ils sont pécheurs. Il veut qu'ils arrivent à ce niveau-là. À ce niveau, finalité d'état parfait, saint, pur devant lui. Il faut qu'ils arrivent là. Mais il faut qu'ils puissent les convaincre. Il va travailler dans leur être pour qu'ils deviennent là-bas. Et c'est tout un travail, chers amis. Mais quand tout va bien avec moi, avec le Seigneur, où je n'ai pas de problème, où je ne marche pas n'importe comment, j'ai obéi au Seigneur, et que ça m'arrive un problème dans ma vie, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve que Dieu a permis. Là, c'est autre chose. Mais quand je sais, quelque part dans ma vie chrétienne, il y a des choses qui ne sont pas bonnes devant Dieu, et que je continue comme ça, attention, quand le pire arrive, c'est Dieu qui frappe. Parce que Dieu ne frappe pas n'importe quand. D'abord, il va avertir. Souvent, c'est ça. Il t'avertit d'une façon ou d'une autre. L'Esprit Saint te convainc. Mais tu ne te laisses pas convaincre. Alors, il va compliquer les choses. Il va compliquer les choses parfois dans ta maison, parfois au travail. Parfois, ça devient compliqué. D'autres même tombent malades. Dieu laisse la maladie t'atteindre. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, il dit que d'autres sont morts à cause des manques d'examinés pendant la Sainte, avant la Sainte Cène, et qu'ils sont morts. Même d'autres sont devenus paralytiques. C'est dur ça. Ils ont pris la Sainte Cène sans discerner. Imagine-toi quelqu'un qui mène une vie un peu désordonnée, et c'est dimanche matin, il va prendre la Sainte Cène, il prend la Sainte Cène sans discerner. Il le fait régulièrement. Attention. À l'époque de Paul à Corinthe, il y avait des infirmes. Quelqu'un qui était bien tout d'un coup, c'est la paralysie. Qui était tout d'un coup, on va enterrer un frère. Il est mort. Oh, il est mort brusquement. Dieu l'a frappé. Il est mort. C'est dur ça. Hein? Voilà notre Père. Il frappe. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention, nous les chrétiens. On ne rigole pas avec les Seigneurs. Les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement dans la lassitude, quelque part, te dit, bon, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. J'ai parlé hier avec une personne. Cette personne disait, cette personne parlait mal contre notre Église. C'est un mal que je peux vous dire, ça, sinon ça va vous tenir en colère. Je lui ai dit simplement, et pendant qu'elle parlait de ça, je l'écoutais, je lui ai dit simplement, si la personne qui te dit ça est enfant de Dieu, il a l'Esprit Saint, il ne parlait pas comme ça. J'étais clair et sûr. Hier, très sûr, je me disais, cet homme ne m'appartient pas. J'ai pitié cette personne. Il m'a dit, il ne m'appartient pas. Et je connais la personne. Il m'a dit, il ne m'appartient pas. Il n'a pas mon esprit. Et je ne lui mettrai pas mon esprit en lui. La personne qui parlait ne savait pas que j'avais reçu ça. Moi, j'ai pitié de la personne. Il ne sera pas dans le royaume des cieux. Et cette personne-là, je dis, mais au début, on parlait, la personne expliquait, elle était en larmes. Mais je dis, bon, tranquillise-toi. Mais comment peut-on parler du mal de l'Église pendant que tu prétends être chrétien? Tu ne peux pas salir la maison de ton père. Supposons que tu es dans avec ton père, non, avec tes frères de la famille, et que tu quittes la maison, tu vas parler, mal de ta maison, de votre famille. Tu ne vas pas l'insulter. Mais tu ne feras pas ça. C'est ta famille. Mais si tu oses aller jusqu'au point de parler mal de ta maison, de ta famille, de ses frères, tu n'es pas de la famille. N'a jamais été. Et moi, quand j'étais triste, mais pourquoi qu'il parle jusqu'à là? Et tout d'un coup, il ne m'appartient pas. Et ça rejoint ce que Jésus avait dit aux pharisiens. Le jour où les pharisiens étaient, ils parlaient mal de lui, ils disaient, mais votre père, c'est le diable. C'était clair, votre père, c'est le diable. Vous n'êtes pas, vous ne m'appartenez pas. Ça désolé, cette histoire m'arrive la deuxième fois. Il y a longtemps, il y a fait des années, où j'ai pris une parole comme ça d'une personne. Dieu m'a dit, cet homme-là, c'est une femme. Cette femme ne m'appartient pas. J'avais peur de croire dans ça. Et quand on a commencé à prier après, on a compris qu'elle était sorcière. Elle n'est pas des nôtres. Et là, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Et je suis triste. Tu sais, quelqu'un peut prétendre des chrétiens des années, il chante, il prie, il va passer par là, il dit Amen, mais il n'est pas de Dieu. C'est horrible ça. Hein? Tu perds le temps. Tu perds ton temps. Dieu ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. C'est grave ça. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Moi, je comprends. Même s'il dit, bon, je vais payer sa voiture, je m'en vais ailleurs, il ne salira pas la maison. Quand il va payer pour nous. Si continuant à vous insulter par le mal de vous, c'est suspect. L'esprit que Dieu nous donne, c'est l'esprit de paix. L'esprit de paix et de consolation et de soutien des autres. C'est l'esprit de... qui rassemble. Jamais, jamais qui divise. Tu peux être loin et tu pries pour les autres. C'est ça le Saint-Esprit. Jamais tu ne mettras en conflit les enfants de Dieu. Oui, ça peut arriver. Paul était séparé avec Barnabas, non? C'était des apôtres. Oui, c'est arrivé. Mais Paul va dire aux gens, au point où nous sommes, marchons ensemble. Donc, gardons la direction divine, mais même si on se comprend, bon, on avance quand même. C'est quand on arrive à repousser l'Église et puis à le faire régulièrement, attention. Tu ne te poses pas aux gens, tu te poses au Seigneur lui-même. C'est quelqu'un qui s'aventure à insulter Kevin, matin, midi, soir, on va l'enterrer un jour. C'est un enfant de Dieu. Jésus va regarder en bas, vous insultez une fois, deux fois, vous continuez, attention, ça va tomber sur toi. Dieu ne permettra jamais. Un jour, il va s'élever. Quelqu'un a dit, oh oui, mais comment est-ce que Jésus a frappé Paul? Vous savez, quand Jésus a frappé Paul, c'est Damas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pourquoi tu me persécutes? On pense que c'est que Paul, mais c'est nous tous aujourd'hui. Si tu touches à Billy, tu touches à Lucia, fais attention. Si tu connais le fer, tu vas te lever un jour en plein autoroute, la voiture tombe en panne. Et tu t'arrêtes là. Tu dis, mais pourquoi la voiture tombe en panne? Parce que tu as parlé mal de merveilles. Tu t'arrêtes là. Dieu n'a pas changé. Hein? Jésus n'a pas changé du tout. Hein? Il est le même. On était dans un deuil chez nous. Congo. Un garçon terrible, souvent chez nous au Congo, le soir, on mettait le corps du défunt là. C'est bizarre chez nous. Et les gens sont là, les familles sont en train de pleurer. C'était trop traumatisant chez nous. Ces systèmes, ils ont changé ça maintenant. À l'époque, quand j'ai canisté comme ça, le corps est là, exposé, et les familles arrivent toute la nuit, ils pleurent. C'était terrible. Alors, le chrétien chantait. Les jeunes sont arrivés là-bas du quartier, des païens, ils ont commencé à insulter les chrétiens. À parler, ils chantaient le contraire, ils insultaient. Quelqu'un a dit, Seigneur, pourquoi vas-tu continuer à t'insulter devant les gens comme ça? C'est lui qui menait la rébellion, qui insultait tout le monde. Oui, il s'est moqué de Jésus. Il insultait même des paroles pas bonnes à dire. Et il parlait avec arrogance. C'est le président dit, Seigneur, si c'est toi qui nous as envoyés ici pour chanter, arrête cet homme. À l'instant, il est tombé par terre. Il faisait les confusions, partait, il tournait, il criait. Nous, on pensait que bon, il est tombé, il a fait une crise, il était malade. Oh, c'était pas ça. Il l'a frappé, il tournait par terre. Tout le monde commençait à crier. Alors, moi, j'étais pas là. J'étais pas avec un frère. Il m'a dit non, on nous a appelé. Venez vite crier, cet homme qui est là, il fait les confusions. C'est un païen. Nous, on a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, on ne sait rien. Alors, on commençait à prier pour lui. Il est réveillé. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne ferai plus ça. Je ne parlerai plus jamais contre Jésus. Et qui a dit, bien fait pour toi. Parce que tu as bien compris. Il dit, je ne parlerai plus jamais contre Jésus. Il est tellement puissant. J'ai vu un feu sur moi. Jamais. Qu'on ne se moque pas de nous, Pierre. Qu'on ne se moque pas de toi. De ta vie, personne ne peut le faire. Vous appartenez au Seigneur. J'ai oublié votre prénom.
Ruth.
Ruth, tu appartiens à Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est quelqu'un qui veut t'écraser comme ça, comme on écrase, c'est pas de aïe, c'est pas l'aïe avec, c'est pas quoi pour faire la sauce. Ton Père s'élèvera. Jésus s'élèvera pour toi. Prenez la Bible à la lettre, c'est la parole de Dieu. Cette parole, elle est dangereuse. Prenez ça à la lettre et ça accomplira pour toi. Si tu crois ça que c'est vrai, tu verras le feu arriver. Croyons en ça. Croyons en ça que cette parole est vraie. Moi, je mets souvent en garde les chrétiens. N'insultez pas les chrétiens. Ne faites pas ça, ça va chauffer. Je sais ce que j'ai dit. Dieu, notre Père, se lèvera. Tôt ou tard. Pourquoi il fait ça? Parce que Jésus a versé son sang. Il verse son sang, non pas pour tout le monde, mais pour ses enfants à lui. Pourquoi on peut se moquer de nous? Nous, c'est le Seigneur, non? Il faut arriver à cet état-là. Pour arriver à ça, Dieu va travailler ici. Pour que je devienne. Revenons ici. Alors, cette discipline-là que Dieu va mettre en place, comme dit Hébreu, Dieu va frapper, va nous corriger. Il dit, supporter la correction, c'est comme à des fils que Dieu vous traite. Nous sommes ses fils. L'adoption, on va revenir ça après. La discipline selon Dieu, ça le laisse selon lui à deux niveaux. C'est pour le royaume des cieux, pour son royaume, la discipline, pour son royaume des cieux, c'est pour la terre. Parce que quand les gens vont voir que telle personne, ça ne va pas, pour qu'ils ne soient pas comme les autres, sur terre qu'on puisse vivre la discipline de Dieu. Au ciel, là-bas, il n'y aura pas de discipline, c'est fini. Mais ici, et son projet pour le royaume des cieux, que tu sois dans son royaume, c'est pour ça qu'il passe par cette discipline-là. Il ne tolère pas le mal pour que tu sois comme lui veut que tu sois. C'est ça un peu son projet à lui. C'est ça la pensée du Père. Deuxième, ces disciplines-là, c'est selon lui, hein, selon les projets de paix qu'on a dit dans l'hébreu. Mais discipline aussi, c'est la preuve de l'adoption, preuve que nous sommes ses enfants. C'est dit, je vous traite comme des fils. Quand il te frappe, quand il te corrige, c'est comme son fils, comme sa fille, non pas comme une étrangère. Dieu ne frappera pas, ne punira pas souvent les païens. Non, il ne lui appartient pas. Il te punira toi, il ne punira pas les païens. Dans une maison, tu puniras tes enfants si on fait des bêtises. Tu puniras pas les enfants du voisin. Ah, tu dis, mais ça ne va pas, pourquoi tu punis mes enfants? Ah, ça ne marche pas. Hein? Les papas, maman punissent ses propres enfants. Il va avoir toujours aux enfants du voisin. Dieu ne punit jamais ceux qui lui appartiennent pas. Il punit ceux qui lui appartiennent. Donc nous, bon, qu'est-ce que vous dites? On a droit à la punition. C'est nous qui va punir. Ah, il va punir ton tonton païen, pas du tout. Hein? Il te punira toi. Si tu fais des bêtises qui exagèrent, que tu fais n'importe quoi. Ton tonton fait la même chose, mais lui, il est tout content, il fait ses bêtises, il continue. Mais toi, tu aurais un petit fou. Hein? Voilà, c'est ça, ce que Dieu fait. Ça, c'est le Seigneur. Je vous l'ai dit ici qu'une fois qu'une fille chez nous au Congo a été enceinte, on l'a repoussée, elle a refusé, elle est morte avec son bébé. Combien de filles ont avorté des païens qui sont vivantes? Combien sont des enfants vivants? Pour elle, elle a accouché, elle a refusé la repentance, elle est morte. Il a frappé, c'est tout. Nous sommes précieux, oui, mais attention à la punition du Père. Faisons attention à ça. Dieu punit tellement. Dieu punit tellement. Ça peut prendre beaucoup de choses. Parce que tu es fils, Dieu peut punir quand ça ne va pas. Quand tu fais des choses qui ne lui plaisent pas, la discipline, c'est la punition. Une porte peut fermer, une porte peut se fermer. Une porte d'autre peut s'ouvrir qui n'est pas bonne. Et je vois, c'est compliqué pour toi, pour ta santé, plein de choses. Moi, c'est compliqué. Vous connaissez Jacques? J'aimerais que l'année prochaine, quand on va commencer le nouveau programme, bon, maintenant on va commencer l'année ici, on a un peu là. On va expliquer ça bien d'ici là, en septembre. Nous devons arriver à mémoriser les versets bibliques. Faisons cet effort-là. Mémoriser même un bout du verset. Tu connais la référence, même au bout du verset. C'était prochaine année prochaine. Nous devons vraiment à mémoriser les versets bibliques. C'est pour ça que tu vois l'évangile des gens, connaît au moins deux ou trois versets par cœur dans cet évangile-là. Que tu sais. En tout cas, quand je vois Jean, je connais tel verset par cœur. C'est riche, c'est intéressant. Et de ne pas. Je connais l'évangile jamais. Je ne sais pas, ça dit quoi, quel verset. Je pense qu'on veut quand même commencer à mémoriser. Dans Jacques, quelque chose qui est lié au péché. Jacques dit, si quelqu'un est malade, vous appelez les anciens de l'église, qui vont prier pour lui, qui vont oindre d'huile, après il sera guéri. Mais s'il a commis des péchés, hein, il sera pardonné. C'est clair dans l'évangile, dans l'épître de Jacques. S'il a commis des péchés, il se peut que ta souffrance est liée au péché. Il y a un homme qui est malade, très malade. je sais, c'est lié au péché. Mais il est tellement connu, je ne sais pas comment lui dire ça. C'est vraiment le péché. Son péché, c'est l'orgueil. Il avait un poste élevé au travail. Maintenant, il ne travaille plus. Il était tellement orgueilleux, moi je ne connais pas, il était tellement orgueilleux, tellement celui qui était le plus fort de tous. Maintenant, il est très malade. Mais la question est, si tu lui dis qu'il fait, est-ce que tu peux te repentir? Il va s'énerver contre moi, ça va chauffer. Donc, je m'étais. Je l'ai vu, j'ai prié avec lui. Mais je ne cite pas Jacques 5. Jacques dit que si vous priez, si tu es malade, qu'il appelle les anciens qui vont arriver et qu'il va confesser son péché. Et les anciens vont prier pour lui, c'est la guérir. Vous savez, tu peux être malade à cause du péché. Hein? Hmm? Ça peut arriver. Hein? Tu as des maux de tête. Tu peux de lui prendre 500 mg. Ça ne marche pas. 1000, ça ne marche pas. Et 3000, ça ne marche pas. Et il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, le médecin dit, mais il n'y a pas de microbes. Tu vois, mais quand le médecin dit qu'il n'y a pas de microbes, pas de médicaments, ça ne va pas. Arrête un peu ça. Reviens au Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Ne force pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Un homme, Jésus a guéri. Vous connaissez l'homme de Bethesda, que Jésus a guéri, qui était là où l'eau bougeait quand quelqu'un est entré, et puis la personne était guérie la première. Jésus dit à cet homme-là, bon, vais-tu te guérir? L'homme raconte un discours un peu bizarre. Tu sais, quand l'eau bouge, tu peux entrer. Il dit, bon, lève-toi, prends ton lit et marche. Et l'homme est guéri. Et Jésus est partout, il est parti. Après, Jésus est revenu le rencontrer. Il lui dit, ne pêche plus. C'est grave, ça. C'est le pire t'arrivera. Donc, cette maladie de 38 ans, c'était le péché. C'est grave, ça. Ce péché-là conduit à 38 ans de maladie. Ne pêche plus, le pire t'arrivera. Pourquoi Dieu l'a frappé? Pourquoi? C'est pour ça qu'il faut faire attention, nous, les chrétiens. Ne pêchez plus. J'ai des preuves de la punition de Dieu à des gens et des couples que je connais, de ma propre famille, où Dieu a frappé des stérilités, jusqu'à ce qu'un jour, ils ont demandé pardon à Dieu et Dieu leur a béni. Mais ils étaient dus pour confesser le péché. Je leur ai dit, si vous ne changez pas, vous serez comme ça. C'est à ce qu'ils ont confessé le péché et les choses ont changé. J'ai des preuves, je sais. Et l'un d'eux a dit, oui, c'est vrai, on a commis des choses horribles et Dieu a fermé la fécondité. Mais après qu'ils sont convertis, demandé pardon au Seigneur, sont revenus en lui totalement, et tout est arrangé. Est-ce qu'on aime notre Père? J'ai promis de compliquer. Ça va, merveille? C'est ça, notre Seigneur. Papa, quand on pense à lui, on tremble. Pourquoi il est comme ça, le Seigneur? Pourquoi? C'est sa nature. Donc, on est fils, voilà ce qu'on peut vivre. Viens cette partie maintenant, discipline pour ressembler à Christ. Il est prié pour ressembler à Jésus, ressembler à lui. L'apôtre écrit au verset 10, « Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme il est jugé bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, en fait de nous faire participer à sa sainteté. » Paul dit, « Nous sommes appelés à ressembler à Jésus. » Là, j'ai arrivé vers vous. Est-ce que vous connaissez un cas? Depuis que vous êtes converti, vous avez compris que non, c'est ces cas-là, ça, c'est la punition de Dieu. Je vous écoute. Vous avez entendu parler, vous avez pu comprendre quelque part que non, ça, c'était vraiment la punition de Dieu. Une situation, vous avez entendu parler, ou vous comprenez que ça, c'est Dieu qui a frappé. N'ayez pas peur de parler hein, si vous connaissez un cas comme ça. Donc, ce n'est pas un cas particulier où on connaît que ça, c'est la main de Dieu.
Après, c'est dur de savoir. Des fois, on peut avoir des suspicions, mais
Oui, ça peut arriver, mais dans quel cas? C'est comme un complot de Billy et Elisabeth, c'est un complot, dites-nous quand même.
Il y a la mère d'une de nos connaissances qui est décédée.
Oui.
Et Billy, là, il soupçonne qu'elle a essayé de faire des choses peut-être dans le domaine du spirituel au niveau des relations que sa fille pouvait avoir avec d'autres personnes. C'est une suspicion, hein, mais c'est juste que le décès, il était vraiment rapide et inattendu. On aurait dit comme si ça aurait pu être justifié par quelque chose.
Oui, Dieu peut faire des choses comme ça. On peut aussi. Oui. Dieu est bon, mais parfois il frappe. Alors, ressemble à Jésus. Le Christ, c'est le Seigneur, il veut qu'on ressemble à lui. Mais nous, on est loin de la ressemblance. Il va utiliser des épreuves, il va utiliser plein de choses, la parole, la prière, pour qu'on ressemble à Jésus. Parfois, il va passer par la punition. Là, c'est la partie restauratrice pour nous amener à être comme Jésus. À nous punir parce qu'on ne fasse pas ce que le monde fait, qu'on fasse comme Jésus. Et il y aura parfois des punitions qui arrivent pour ressembler à Christ. Pour vivre cette vie avec lui comme vraiment des enfants de Dieu et qu'il les glorifie, lui, le Seigneur. Dieu tient à ce qu'on soit semblable à Jésus. Je vais trop loin dans mon péché, trop loin dans ma désobéissance, il va me ramener vers lui. Vous connaissez le psaume 23, là, ton bateau et ta houlette, mais. Oui. Vous connaissez le bâton? La houlette, c'est quoi la houlette? Vous avez une idée? La houlette. Chez le berger.
C'est pour conduire le troupeau.
Voilà, conduire le troupeau. Si un troupeau va, le berger le ramène sur le chemin. Dieu a une houlette. Il a un bâton. David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Les bâtons, c'est pas joli. Houlette, c'est pas bon. Mais David dit, ça me rassure. Donc c'est très important pour moi. Je peux m'égarer, mais tu me ramènes. Tu peux frapper aussi. Les bâtons, ça va frapper parfois, hein. Tu me ramènes à la correction que tu veux. Tu me ramènes. Pour que je sois, je reste sur le chemin que tu as tracé. Quand je commence à dévier, tu me ramènes sur le droit chemin. C'est ça que David sait. Il a dit au Seigneur, pour ressembler à Christ, Jésus est notre modèle pour toujours. Pour nous amener vers à faire comme le Christ a fait. Et là, le Seigneur intervient pour nous corriger, nous ramener vers lui. C'est pour ça que la Bible dit que pour son intérêt. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt. Afin de participer à sa sainteté à lui. Qu'on soit, c'est comme lui. Oh, sa sainteté à lui qui est révélée. C'est le Christ qui nous révèle la sainteté du Père. C'est être comme lui. C'est l'intérêt de Dieu quand il fait ça. Pas pour te tuer, non. Pour que tu participes à la sainteté comme le Christ. À ressembler à lui. Et il y a les punitions qui arrivent dans notre vie. Après la ressemblance, qui Dieu peut utiliser la punition, quelquefois, il vient aussi la punition pour la différence. La différence dans ce monde ici. Qu'il soit différent dans ce monde, quand les gens te regardent, ils te voient une autre personne. Dieu veut que tu sois différent des autres. Ce que les autres te font, toi tu ne le fais pas. Toi tu ne le fais pas. Quand les gens prennent le chemin droit, toi tu prends la gauche. Tu n'es pas de ce monde ici. Tu es du royaume de Dieu. Donc, Dieu ne permet pas ça. Il veut qu'il y ait une différence entre toi et eux. Une différence. Différence pour que tu sois témoin du Christ. Témoin du Christ, sois témoin. Dans ce monde où il y a des péchés, qu'on voit que ah oui, cette personne est différente. Différente aussi. Différence pour que Dieu veut révéler en toi le royaume de Dieu par rapport aux autres. veut lui révéler son royaume. Donc, tu es puni pour que tu arrives à libérer la différence et que les gens te voient différemment par rapport aux autres. Le témoin du Christ. Le témoin du Christ. Révéler le royaume de Dieu aux non-croyants. C'est ça la dimension de la différence que Dieu veut qu'on voit, la différence. Que tu es différent dans ce monde, que tu n'as jamais passé par la punition. Pas pour te faire mal, mais pour révéler ces deux choses-là. Tu es témoin, elles sont différentes des autres. Tu n'es pas comme eux. Tu es une personne tout à fait différente. On va lire un texte, Actes chapitre 22. Actes 22. C'est le témoignage de Paul. Il témoigne un peu comment Dieu l'a rencontré. Donc, il y a acte 22, ce témoignage-là. Donc, il y a acte 9, acte 22, acte 26, où Paul parle de comment il a rencontré le Seigneur. Prenons plutôt acte 26. Prenons acte 26, c'est verset 15. Acte 26, 15, c'est presque comme acte 22 aussi. Acte 26, 15. Fait lecture, j'ai répondu, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, moi je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur les petits pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi, et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. J'étais pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent vers des ténèbres, vers la lumière et de Satan, les pouvoirs de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et en héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Là, c'est verset 18, 15 à 18. Je te suis apparu. Il dit, mais tu peux pour que tu t'envoies vers les païens. Il dit, choisis, mais je t'envoie qu'on fait des païens. Dieu nous envoie vers les païens. Nous étions là-bas, il nous fait sortir, on devient enfant de Dieu, puis on rentre là-bas maintenant comme témoin. Mais là, il va utiliser parfois la discipline pour qu'on reste dans la différence. Dieu veut que nous gardions la différence tout le temps. Sois toujours différent là où tu es. Ne trahis pas la différence avec Dieu. Ne trahis pas cette différence. Sois toujours différent. Là où tu peux être partout, à la maison, au travail, sois toujours donc différent du monde. La différence, c'est notre habillement que nous sommes différents. Nous sommes très différents en tout que tu passes. Ta façon de faire les choses, ta façon de parler, tu es vraiment un homme, une femme, pas de ce monde ici, pas de ce pays ici, mais qui appartient au royaume des cieux. Vraiment différent. Sois différent partout. La différence pour nous n'est pas par saison, par circonstance. Ou par période. Une différence de toute notre vie. Notre vie entière, elle est différente. C'est ce que nous sommes. Et Dieu veut ça. Que tu sois différent partout où tu passes. Dieu veut cela. Envers les païens, envers les chrétiens. Sois cet homme, cette femme. Différent. La différence doit imprégner ta vie. En tout, au fond de toi, Seigneur, je veux être différent. Dans tes pensées, dans tes paroles, sois différent, parce que c'est une autre personne. Et cela, pour ne pas la perdre de la discipline, mais plutôt pour honorer le Seigneur, que tu sois, que tu restes différent. La différence, ce n'est pas la naïveté, ce n'est pas l'acheter pas du tout, mais tu glorifies Dieu dans ta vie. Alors, une personne qui m'a dit hier, j'ai des rendez-vous que j'ai oublié, mais parfois des dates, et elle a dit, c'est une phrase qui m'a étonné, hein. Je suis baigné dans un moule avec des gens qui ne sont jamais contents de leur vie, qui se plaignent tout le temps, qui parlent tout le mal des autres. Je suis baigné dedans, mais je ne suis pas contaminé. Voilà. J'étais heureux de dire, ah bon? Il dit, là où je vis, c'est rien que ça, mais jamais je suis impacté. Au contraire, dans mon cœur, je dis, mais Seigneur, protège-moi. Je le dis, félicitations. Il dit, je vis dans ce bain-là, c'est horrible, mais je ne suis jamais impacté. Je suis moi-même. Et j'ai compris que ça, c'est l'ennemi. Je suis resté. Et je suis fier de toi. C'est rare, hein, que les gens restent comme ça. Et de tous qui sont tous, sont bizarres, mais moi, je suis resté intact. Après, il dit, je ne trahirai pas ma relation avec Dieu. Ça veut dire, je suis différent. Soyons différents. Chers amis, ça va? Restons différents, hein? Même si ça chauffe. Restons différents. Et là, le père va utiliser aussi la discipline. S'il voit qu'on commence un peu à trahir un peu, hop, il nous ramène. Retourne à la différence. Et puis, il te ramène à la différence. Ah, c'est magnifique avec Dieu. C'est magnifique avec lui. Avant de conclure la fin, est-ce que vous avez une question par rapport à ces trois différences-là? Adoption, ressemblance et discipline. Et différence. Vous avez une question?
Juste par rapport à un exemple que tu as donné, la femme qui a avorté et qui s'est faite punir. Et du coup, la punition, elle mène à la mort définitive ou à la vie éternelle quand même? Enfin...
La punition du Seigneur, on va aborder la partie restauration après, à la fin. La punition, pour que tu reviennes à lui, il faut revenir au Seigneur.
Mais là, c'est trop
mais
tard.
Là, elle n'est pas revenue. Elle est perdue pour toujours. Cette femme n'est pas dans le ciel. Il fallait qu'il se répande. Et là, c'est nous tous, on regrette sa vie. Il voulait la restaurer même. Et c'est comme cela avec la punition, comme le cas d'Israël dans le désert. C'est tout ça, marqué aussi, tu vas dans mon pays, à la capitale de l'église baptiste et protestante la plus grande. Demande, tu dis la question de fille, là, donne son nom. On va dire, oh, laisse tomber ce nom-là. Tout le monde, ça a marqué toute l'église jusqu'à aujourd'hui. Ce nom, quand on dit ce nom-là, les gens regrettent beaucoup. Toute l'église qu'a aujourd'hui, elle est morte terriblement, bizarrement. Et ça a marqué l'église qu'a aujourd'hui. C'est une grande église, il y a plus de 3000 membres. Grande église, mais ça cause son problème. Et les gens n'oublient pas. Oui, Kevin.
Moi, j'avais une question par rapport justement à la punition divine. Parce que si je prends mon cas, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question si tel événement était lié justement à cette punition-là. Est-ce qu'on... on a un devoir de continuellement se poser cette question pour soit, par exemple, prier à Dieu, auprès de Dieu, sa compassion auprès de la personne, ou c'est quelque chose où on se dit, bon, c'est une punition divine, malheureusement, on ne peut rien faire, quoi qu'il arrive.
Alors, si c'est dans le cas personnel où je pose la question, si je sais que je n'ai rien fait de mal avec le Seigneur, que tout va bien. Moi, je me parle mes pensées que j'ai mal fait. Quelque chose qui m'arrive. Là, c'est l'épreuve. Là, c'est l'épreuve qui m'arrive. Dieu permet l'épreuve pour me tailler quelque part. Mais si je reconnais que oui, ah là là, j'ai fait trop de bêtises. Mais je connais le faire. Ce qui m'arrive là, c'est compliqué. Là, c'est la punition Dieu frappe. Ça peut être un cas comme ça que. Ça peut au travail, hein. Tout va bien avec mes amis. Hein. Tout d'un coup, le matin, le chef tenait, écoutez, tu es licencié. Mais qu'est-ce que je fais? Il y a cette porte-là. Il peut faire ça aussi. Puis frapper comme ça. Mais si maintenant, à l'extérieur, une personne que tu vois que sa vie commence à se compliquer, tu peux l'approcher, lui poser des questions, échanger avec la personne. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas? Si la personne est ouverte, écoutez, voilà ce qui s'est passé, voilà mes problèmes, tu dis que non, ça, attention, ça, c'est la punition du Seigneur. Il faut qu'on prie pour ça. La réponse à la punition du Seigneur, c'est la repentance simplement. Quand je me repens, tout s'arrête. Dieu attend la repentance. C'est tout. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal fait. C'est tout. Dieu pardonne et puis. Et puis ça passe. La repentance met fin à la punition du Père. David a perdu son enfant, non? David a eu l'enfant avec Bathsheba. Dieu l'a puni. Il a tué l'enfant. David a prié, vous savez qu'il avait beaucoup prié. Et puis, il ne mangeait pas. Il gênait, il ne mangeait pas. Quand l'enfant était malade, on dit, mais David, mais il priait, il ne mangeait pas. Mais quand l'enfant est décédé, David est parti se laver. Il met ses habits de roi. Et puis, il dit, je vais manger. Il dit, mais il est fou, ce type. Au contraire, on doit pleurer après le décès. Lui, c'est le contraire. Il pleurait pendant que l'enfant souffrait. On dit, quand l'enfant est décédé, on avait peur de lui dire ça. Est-ce qu'on lui dit, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant que l'enfant est encore en vie, il pleurait. Alors quand on dit que l'enfant est mort, il va se suicider, il va faire du mal. Quand on lui a dit, lui, les gens ont commencé à parler un peu derrière ton dos. Il a dit, mais ah, je vous entends, mais qu'est-ce qui se passe? Il est mort? Ok. Il n'est pas dit, c'est lavé. Il a dit, lui, l'enfant ne viendra plus vers moi. C'est moi qui vais aller vers lui. Donc, pourquoi dois-je pleurer encore? Mais l'enfant était bien frappé David, l'enfant était décédé. Ça, c'est la punition du père. Et ça a corrigé David. Hein. Depuis ce temps-là, David avait beaucoup de femmes. Mais depuis ce temps-là, il a gardé Bathsheba, la femme à côté de lui. Et les autres femmes, ils sont mis dans on appelait la cité où il mettait toutes les femmes. Il n'allait plus les voir. Il a un peu réorganisé sa vie d'une autre manière. Il était dit, pour de grands jusqu'à, ça conseille quelqu'un, approche-le, hein, voir s'il peut se repentir.
Est-ce que ça ne dépend pas aussi du cœur, par exemple, parce que quand on dit que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu, c'est écrit dans la parole. Bon, David il a fauté, mais Dieu l'a averti, il s'est repenti, etc. Et il y a le couple dans le Nouveau Testament, ils ont dit qu'ils allaient vendre leur terre, je crois.
Ananias,
et au final, ils ont gardé l'argent pour eux, et eux, ils sont morts sur le coup. Est-ce que la différence entre, par exemple, ces deux histoires, parce qu'au final, c'est pas la même chose, mais est-ce que la différence, c'est pas le cœur? Parce que Dieu seul connaît le cœur des gens. Est-ce que la différence de la correction, c'est parce que cette personne est capable de se repentir et de reconnaître que Dieu est saint, et que les autres, peut-être pas. Du coup, c'est ça la différence qui fait que il y a la mort au bout ou juste une correction.
Oui, c'est vrai, ça peut être un aspect. Mais les deux cas, ils étaient avertis. Mm. Ils étaient avertis, les deux cas. Mais Dieu a averti Nathan, David par Nathan. Pierre a averti Ananias et Saphira. Et comme tu dis qu'ils ont fermé leur cœur. Bon, c'est vrai, Dieu connaît la finalité des faits. Bon, et c'était la non-repentance. Ils ne voulaient pas se repentir. C'est la mort qui est arrivée. Et aussi la pensée, l'homme selon mon cœur, oui, c'est ça aussi, mais... Nous sommes, nous, selon le cœur de Dieu aussi, hein, que Dieu nous a aimés avant qu'il crée le monde, il nous aime. C'est vraiment le cœur de l'homme qui ne veut pas se repentir. C'est le cas d'Ananias, c'est un très bon exemple, c'est ça. Ils sont corrigés. Et puis ils sont morts le même jour. C'est grave, ça. On ne dit pas, s'ils avaient des enfants. S'ils avaient des enfants, c'est bizarre. Papa et moi sont partis, on le voit. On dit, écoutez, vos parents sont morts, ils nous ont enterrés déjà là-bas. C'est dur, ça. Enfin, les enfants devaient être traumatisés, hein.
C'était qu'il n'était pas du Seigneur, cette personne. Cette parole-là, est-ce que ça veut dire qu'il ne sera jamais sauvé ou est-ce qu'il a l'opportunité de se repentir?
Je ne sais pas, c'est Dieu qui sait. C'est lui qui décide. Quand Jésus dit aux pharisiens, vous n'êtes pas de moi, vous êtes des diables, c'était le final, c'était clair. Ils ne sont pas de lui. Jésus parle de l'appartenance. L'appartenance à l'ennemi, ça ne change pas. Lui que tu es là, tu n'es pas, tu n'appartiens pas. C'est dur. La correction du Seigneur est une réalité qui est là, mais ça reste pour restaurer. La restauration, c'est le cas de David, mais là-bas, c'est le seul cas de David quand il était puni. Son fils est décédé, Dieu l'a restauré. David est revenu à Dieu par deux psaumes, 51 et 32. Il a reconnu son péché et il était béni énormément. La restauration nous amène à revenir à Dieu par la repentance, et Dieu nous bénit à la suite. Et David a vécu ça. Et Dieu l'a béni énormément. Israël s'est repenti par moment. Quand ça chauffe, il demande pardon, il dit au Seigneur, Dieu le bénit, après il revient encore dans le péché. Il faisait un peu de va-et-vient, Israël. Ils vont demander pardon, après ils vont revenir. C'est Dieu comme ça avec Israël. Mais Dieu lui pardonnait toujours. Il y a un frère qui disait, il y a longtemps, quand j'étais en copie, il disait, mais Dieu est trop gentil avec les juifs, il est trop gentil avec eux. Comment il pêche et puis il va encore les revenir? Mais pour moi, je les quitte tous ceux qui n'en parlent plus. Je dis, mais toi, c'est toi, Dieu, c'est Dieu. Vous connaissez le texte où Dieu a dit à Osée, chapitre 6. Cette phrase fait trembler aujourd'hui tous les théologiens. Même Paul en cite un bout. Dieu dit, si vous changez le soleil et la lune, mon amour s'arrêtera pour Israël. Donc, tout ce qu'il fait là-bas, c'est un méthaneur qui tue l'Ira et compagnie. Dieu aime Israël. C'est compliqué, hein? Si la lune s'arrête, elle n'existe plus, mon amour pour Israël va s'arrêter. Mais tant qu'il y aura la lune, le soleil, j'aimerai Israël. Alors, maintenant, lui, il a pris ce verset, il a dit toute sa colère pour attaquer les autres, pour tuer les autres. Il a dit ça dans ce discours, nous sommes le peuple de Dieu. Nous imposons dans la vie. C'est pas ça que Dieu a dit. Hein? Et lui, il pense que c'est ça. Mais l'amour de Dieu pour Israël ne s'arrêtera jamais à cause d'Abraham. Même Paul se pose la question dans Romains 11, il pose cette question. Est-ce que tout seul sera sauvé? Paul pose cette question. Si, à bas de ce texte de Osée, mon amour ne changera pas pour ce peuple. J'aime Israël. Je l'aime tellement. Bon, nous aussi, nous c'est plus grand parce que Jésus a donné sa vie pour nous, non? C'est scellé pour toujours. Son amour pour nous ne changera pas. Voilà la pensée du Père. David a eu cette grâce-là. Alors, Paul, lui, il a été frappé, il était avec 3 jours. Il a une super punition. 3 jours, il ne voyait pas du tout. Il l'a puni. Après, quand ses yeux sont ouverts, il a été restauré pleinement. Un homme très puissant. Très, très puissant. C'est Paul de Tarse. Un homme béni par l'Éternel. Il l'a restauré. Dieu ne finit pas nous punir, il nous restaure toujours. Dieu ne va pas s'arrêter à la punition. Il va continuer à ce qu'on soit restauré. Mais il faut que je fasse la repentance. Mais parfois, la punition peut durer longtemps. Tant que je garde la tête due, je ne vais pas. Et ça va continuer. Parce qu'au jour où je dirai, Seigneur, je m'arrête là. Et ça va avancer. Ce que Dieu va faire, il fera. Voilà, chers amis, la punition, la discipline est punitive, la correction divine, punitive aussi. Et ça peut nous restaurer pour qu'on revienne, pour qu'on devienne, pour qu'on soit ce que Dieu fait dans l'état parfait dans son royaume. En attendant, nous traversons ces temps difficiles. Et parfois, c'est lui qui nous conduit. Discernons épreuve, discipline, tentation, correction. Il faut discerner pourquoi j'ai traversé la situation. C'est quoi exactement? Il faut discerner. Ah, ça, c'est l'épreuve. Ah, ça, c'est la discipline. Ah, ça, c'est une tentation. Il faut toujours vérifier. Et quand tu comportes... C'est la question, la correction. Je propose que tu pries avec une personne. Cherche quelqu'un avec qui qui est discret, qui peut garder des secrets. Dis-lui, voilà ce qui se passe. Et il va prier pour toi. Il va vous prier ensemble, tu confesses le péché, il prie pour toi, c'est tout. Et puis les choses se mettent en place, le Seigneur pardonne. Et puis, mais parfois il arrive que Dieu pardonne, mais les conséquences restent. Ça aussi, ça peut rester des conséquences. Il pardonne, mais il y a des conséquences qui vont rester. Et il faut faire attention à ça aussi. Quand les conséquences arrivent, tu es dépassé, tu fais ça, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Parfois, tu es dans la prière d'intercession pour tes projets personnels, ça ne marche pas. Fais marche arrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu t'éclairera. Voilà, chers amis, c'est que j'avais partagé aujourd'hui par rapport à cette dimension de la discipline et de la correction de la part du Seigneur. C'est ce que nous donne l'apôtre dans ce texte.
Kingston,
oui?
On dit souvent que si on arrive à dire que Jésus-Christ est Seigneur, c'est qu'on est inspiré par le Saint-Esprit, que l'homme de lui-même, il ne peut pas dire ce genre de choses. Mais on dit aussi que dans l'Église, il y a des gens qui ne sont pas choisis. On ne sera pas tous au paradis. Et donc, est-ce que c'est possible si on se donne vraiment... si quand on fait de notre mieux et qu'on veut vraiment se donner au Seigneur, c'est possible de finalement ne pas être choisi même si on fait de notre mieux? Enfin, est-ce que les gens qui ne sont pas choisis, dans le fond, ils s'en rendent compte? Ou peut-être que moi, là, aujourd'hui, je fais de mon mieux, mais finalement, je suis pas choisie et je ne fais pas partie de ce que Dieu veut garder. Enfin, comment on peut savoir?
Alors, les pasteurs dans les églises ne connaissent pas. Et puis, ils prêchent l'évangile pour tout le monde. Et puis, ils ne connaissent pas. Mais les personnes elles-mêmes qui avancent dans la foi, qui comprennent que non, par rapport à ce qu'ils vivent, ce qu'ils font, je suis à côté. La personne que Dieu choisit, elle n'est pas parfaite, mais il y a des signes, des choses claires, comment il vit sa vie chrétienne. Il y a ce désir, il y a cet amour, il y a cet avancement, il y a ce souci, plein de choses qu'il vit. Et puis, il y a des changements dans sa vie. Là, on voit les choses qui se passent. Et on sait que non, l'Esprit Saint le conduit dans plein de choses qu'il vit. Il y a des personnes, parfois, il n'y a pas de changement. Il a quitté le monde païen, il est venu ici, rien, alors zéro changement. C'est le changement, il vient à l'église. C'est ça. Donc, zéro changement. Moi, je vois ça, zéro changement. Ce changement qui sait qu'il vient à l'église. Mais le reste, c'est la même chose. Dans ces cas, qu'est-ce qu'on dit? Christ n'est pas là. Vraiment, pas de changement. Tout ce qu'il était là, c'est comme si on a transposé la personne amie ici avec l'étiquette chrétienne. Mais rien, le langage, l'attitude, c'est la même chose. Ça, c'est triste, ça. Dieu, quand il choisit, il fait un travail derrière. Il ne choisit pas, c'est laissé comme ça, comme un mouton dans la rue. Non, il te choisit, il commence à travailler dans ta vie. C'est ça, il travaille dans ta vie. Mais s'il n'y a rien comme travail derrière, ça, c'est très dangereux.
Donc, encore une fois, il faut regarder aux œuvres.
Et regarder aux œuvres, où Dieu n'est pas d'abord ça, c'est la foi que tu dois avoir en lui. C'est ça. C'est ça. Nous serons sur le pied quand Jésus reviendra, chers amis. C'est pour ça qu'il dit toujours que sois sûr, en tant que chrétien, moi, je suis du bon côté. Je suis du bon côté. Faut être sûr, cette certitude, je suis du bon côté. Faut cette certitude-là, que je suis du bon côté. Les pasteurs n'osent pas toucher, c'est pas parce que c'est délicat, mais que chacun réfléchisse. Un pasteur n'osait pas la destination dans son église, quand il s'est sarcelle là-bas, c'était tendu. Il dit, bon, je corrige les choses. Chacun sait ce qu'il va faire parce que les gens étaient inquiets, est-ce que moi, je suis sauvé? C'était plus bizarre, il dit, bon, on s'apaise, on laisse Dieu nous convaincre, nous prendre lui. Soyons apaisés. Voilà, chers amis, la vie chrétienne. Tenez ferme. Tenez ferme et progressons. Que l'Esprit Saint puisse nous visiter, nous conduire. Voilà, tenez ferme. La correction peut arriver, mais quand ça arrive, il faut en parler. Parle avec un frère, avec une sœur, qu'on prie pour toi. Et vois si c'est l'épreuve ou pas l'épreuve, ou tentation ou pas tentation. Discerne ça, et puis bon, on prie, et puis tu avances. Mais le Seigneur, à la fin, au final, Dieu veut te restaurer simplement. Que tu sois pour lui, son fils, son serviteur, et que tu marches comme lui veut que tu sois. Et c'est pour ça qu'il fait ses bénédictions. C'est pas pour te détruire. Mais si ça arrive à la mort, comme le cas d'Ananias et Saphira, il y a des gens qui ne voulaient pas se répentir, et puis ils vont au cimetière. Ils ne veulent pas, ils partent au cimetière. Et Dieu punit, et puis il tue. Parce qu'il ne veut pas que tu sois là. Mais le Seigneur, il veut que nous vivons pour qu'on soit comme témoins dans ce monde. Dernière question. Qui est passé par une punition divine? Quand on dit, oh là là, ça c'est le coup du bâton du Seigneur. Qui a déjà vécu ça? Il dit que ça, c'est vraiment le Seigneur qui me punit ça. Ça vous est arrivé qu'il dit, oh là là, là c'est la punition, là c'est Dieu qui me punit. Il faut que je rentre vite à la maison du Père. Qui est passé par là?
Moi, je crois que quand je cherchais un job, donc j'ai passé un entretien pour être hôtesse d'accueil, on m'a demandé pendant combien de temps est-ce que je voulais travailler pour eux. Et je savais qu'il fallait que je dise une longue période, sinon ça n'avait pas marché. Mais dans mon cœur, je voulais que 2-3 mois. Mais j'ai quand même dit 6 mois à 1 an. Et ben, je pense que Dieu m'a puni parce que je suis vraiment restée plus de 6 mois là-bas. Donc voilà, j'avais l'impression que... Parce que j'avais pas le choix en fait, hein, mais je me suis retrouvée bloquée là-bas. Et je pense que si j'avais été honnête, tu vois... Ça serait passé autrement, mais j'aurais pas dû mentir.
Merci que c'est pour ta sincérité. Parfois Dieu fait des choses, parfois qu'il chauffe la tête. Qu'on dit ce qu'il faut dire. Parfois Dieu fait comme ça. J'arrive à l'aéroport des Aventaines en Belgique, quand j'ai fait de l'Europe pour aller au conf venir ici en France. On pose la question, tu veux faire quoi ici en France, en Europe ici? Quand j'arrivais ici, arrivé en France, pour répondre que d'abord, il y avait les documents du Canada, les documents de la France et de la Belgique. Il fallait que je descende par là, puis je vais en France, puis hop, je passe. Là, on me pose la question. Tu veux faire quoi? Comment je vais répondre à l'immigration? Il faut répondre bien pour que tu accordes le visa d'entrée. Je dis, bon, si j'ai dit, je viens pour le tourisme, c'est pas vrai. J'ai dit, pour traverser ici, c'est pas vrai. Oh, j'avais une conférence qui m'attendait aussi, à Paris. J'ai dit, bon, je vais à la conférence, après la conférence, je vais à l'ambassade du Canada, et puis je pars. J'ai dit, monsieur, je vais à la conférence. Bon, quand j'ai pris l'avion, la conférence allait s'arrêter un jour après. Il me dit, mais monsieur, mais la conférence va s'arrêter un jour après. Mais... J'ai dit, oui, je vais l'arrêter parce que c'est une question de visa au pays. Pour la dernière question, alors tu fais quoi dans la vie? Il fallait répondre à cette question. Où les potes allaient se faire. Mais j'ai dit, ben, d'abord, il pose la question, combien dans ta poche? J'ai dit que je n'ai que 200 dollars. Oh, mais c'est rien du tout ça. Si tu veux une conférence, c'est rien du tout. Tu peux être à l'hôtel, mais c'est très peu. J'ai dit tout ce que je savais. Et puis, il me dit, j'ai dit, mais je suis pasteur. J'ai, depuis mon pays, mais je connais le pastoral. Et puis, il m'a dit, oh, mais c'est le prêtre. J'ai dit, mais je ne suis pas prêtre. Il dit, mais moi, pour moi, tu es prêtre. Il commence à rigoler. Il a son ami, ah, voilà le prêtre qui vient en conférence. Et tout s'est arrêté là. Oh bon, allez, prends ton passeport. Il met les clés dedans et tu entres. Ça s'est arrêté là. Si j'avais autre chose, j'allais rester là-bas. J'aurais mille questions. Il faudrait que je dise la vérité. Et je suis passé. La vérité nous libère. C'est lui, mais il faut la dire. Et je suis passé. Et donc, il dit, bon, monsieur le prêtre, on te verra plus tard en Belgique. Merci. Ah, le bonne journée, je suis passé. Je lui dis. Après, ce midi, mais ce prêtre, il n'a que des sangs. Il est pauvre, il n'a que des sangs d'oral. C'est pas beaucoup, ça. Comment il va vivre ici? Bon, laissez-le passer. Je dis ce que j'avais, et puis ce que je suis. C'est tout. C'est tout. Disons ce que nous sommes. Quand tu reconnais ça, c'est très bien. Et Dieu va te guider autrefois, de toute façon. C'est la vie chrétienne, hein. Parfois, c'est... On jongle par-ci par-là, mais Dieu nous assiste. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Il y a l'expérience avec le Seigneur qu'on peut vivre. Vivre avec Dieu. Bien. On va prier le Seigneur, chers amis, tout ce qu'on a entendu. J'espère que ça nous a fait du bien de comprendre cette histoire et de nous positionner plus tard comment on va faire. On va prier. Notre Père, nous te bénissons pour ces temps de partage. C'est vrai que l'heure est avancée. C'est vrai que tu as donné la force à chacun de tenir. Merci parce que dans tout ça, tu nous aimes. Tu nous aimes au point que tu permets la correction pour que nous soyons vraiment des enfants légitimes qui t'appartiennent et qui marchent dans le chemin que tu as choisi. Pour que le monde nous voit quand le monde nous regarde, va que ces hommes et ces femmes sont des enfants de Dieu. Il arrive que, Père, nous péchons contre toi. Et tu nous regardes avec tendresse. Et parfois, arrive, la punition arrive, non pas pour nous détruire, mais pour nous ramener à toi. Tu utilises les bâtons, la houlette pour nous ramener à toi, Seigneur, pour qu'on soit digne de toi. Comme tu as dit dans l'Épître aux Hébreux, pour que nous participions à ta sainteté. Seigneur, aide-nous à participer à ta sainteté. Que nous ne nous laissons pas entraîner par le mal pour être punis par toi. Mais tu es compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, si tu libérais ta colère tout le temps, on ne serait pas ici. Mais ta compassion est immense. Tu es tellement miséricordieux et nous vivons aujourd'hui ici. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis chacun d'être ce témoin dans ce monde pour toi. Garde-nous dans la lumière du Christ et dans la sainteté et dans la pureté. Merci pour ta grâce. Merci pour le reste de la journée. Guide-nous, Seigneur, et d'être le témoin qui vive la grâce des Pères en se gardant la discipline comme moyen que tu utilises pour nous restaurer. Je te rends gloire. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Père, chacun qui rentre à la maison, que nous rentrons en paix sous ta protection. Et la semaine que nous commençons, elle est à toi. Dirige-nous et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Voyons si la sainteté, chers amis.